Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, nous sommes de retour avec ce soir Clément David, qu'on va retrouver dans un instant, et puis nos deux Frédéric Krebs, nouveau débriefeur de Tech & Co, CMO chez Serena, ancien patron d'Allociné, tu as travaillé chez France Télécom aussi, tu as été l'un des pionniers du e-commerce, hein, c'est intéressant aussi d'évoquer ce sujet, mais ce sera dans à d'autres occasions. Clément David, qui est le patron de Paddock, bien évidemment, et Frédéric Bianchi, de la rédaction de BFM Business.
Patron de moi-même.
Patron de toi-même, ça c'est bien, c'est cool. C'est les meilleurs ceux-là.
Félicitations.
Elon Musk qui l'a un peu au travers de la gorge, là, avec cette histoire d'iPhone boosté à l'IA. Alors, il y a plusieurs réactions concernant Elon Musk. Elon Musk a dit, Apple a passé un pacte avec OpenAI, rappelons que Elon Musk déteste OpenAI. Il a été l'un des cofondateurs, en fait, d'OpenAI. Mais il est parti très tôt. Il est passé à côté de l'explosion, en fait, de ces boîtes-là. Il n'est pas d'accord avec la philosophie, on va dire, le point de vue, la posture intellectuelle de OpenAI en matière d'intelligence artificielle générative. Et jusque-là, bon, il a toujours été plutôt sympa avec Apple, mais étant donné qu'Apple pactise avec OpenAI et avec ChatGPT pour la prochaine mise à jour, il a tout simplement, Fred, annoncé qu'il allait retirer tous les iPhones, les employés de Tesla, de ces boîtes ne pourraient plus avoir d'iPhone, c'est ça?
Ben oui, si vous fabriquez des cages de Faraday, alors vous voyez ce que c'est les cages de Faraday, ce qui empêche les ondes de passer, ouais. Ben, vous pouvez peut-être avoir de très bons contrats avec Elon Musk, puisqu'il a dit que si les salariés qui utilisaient l'iPhone avec Apple Intelligence, donc, et potentiellement donc ChatGPT, eh bien, il les obligerait à mettre leur téléphone à l'entrée, les laisser à l'entrée dans ces cages de Faraday, pour éviter donc d'avoir des fuites de données. Donc bon, on est dans le Elon Musk.
Alors est-ce que c'est de la paranoïa,
paranoïaque, paranoïaque, je ne sais
Caprice.
Pas, capricieux, revanchard, parce que voilà, on sait que avec Sam Altman, il se déteste cordialement, et donc là, voilà. Alors après, avec Elon Musk, on sait qu'il peut très bien changer d'avis du jour au lendemain. Il y a un an et demi, il disait que l'intelligence artificielle générative, il fallait mettre sur pause. Et puis finalement, deux mois après, il lançait son propre modèle de langage.
Grok.
Exactement. Donc là, la nouveauté, c'est qu'il a été interrogé par un internaute sur Twitter, qui lui a demandé si du coup, dans ce contexte-là, il comptait lancer un téléphone, un X-Phone, et Elon Musk aurait répondu. Alors c'est pas la première fois qu'il répond oui à cette question. Déjà, je crois en 2022, on avait fait d'ailleurs un plateau sur Elon Musk, va-t-il lancer son téléphone? Alors c'est toujours pas le cas deux ans après. Il a pas fermé la porte. Aujourd'hui, à nouveau, apparemment, bon, moi, j'y crois pas une seule seconde à ces histoires-là.
Et cette idée remonte à 2022, en fait, parce que à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un peu tendu avec X. Il venait de racheter Twitter, et en fait, il y avait des rumeurs comme quoi. Comme effectivement il avait viré 75% déjà, qu'il y avait des gens qui n'avaient plus de modération, etc. Il y avait une rumeur qui persistait comme quoi l'Apple Store et le Google Play Store pouvaient enlever l'application Twitter. Il avait dit, si un jour il y a ça qui arrive, je n'aurai pas d'autre choix que de créer mon smartphone pour que les gens puissent installer en fait l'application X. Bon, effectivement ça s'est pas passé, mais voilà, cette rumeur revient petit à petit. L'espace, la voiture électrique, les implants dans le cerveau, et pourquoi pas un smartphone aussi.
Bon. Ça coûte pas grand-chose. Demande-moi si Paddock va lancer son téléphone, je te répondrai pourquoi pas.
Et, oui, et d'ailleurs, vous ferez une émission dessus en disant
le Clément... Paddock Phone, j'ai déjà le nom, moi.
Ça part. Donc, j'aime bien quand tu dis le côté sous-polet caractériel, il y a un peu de ça. On a parlé que de lui toute l'année 2022.
Et là, toute l'année 2021 et toute l'année 2020.
Exactement. Donc à un moment...
J'aurais dû regarder les deux émissions.
Il a vu qu'en 2023, on parlait pas de lui.
Ah oui. On parlait plus de Sam Altman.
Tu vois, donc il y a quand même un truc. Et puis, tu lis sa biographie, tu vois que c'est un mec, quand il a pas des problèmes à gérer, où il a l'impression que tout le monde va mourir, il est en dépression.
On dirait que ça le porte.
Non, mais il a vraiment besoin de ce conflit intérieur et extérieur. C'est un truc qui est... S'il commence à faire la guerre et à lancer les produits de tous les mecs qui collaborent avec ChatGPT, il va en lancer des boîtes. À un moment, va falloir que dans sa stratégie, parce que Twitter, par exemple, on attend des annonces, tu vois, on ne sait pas ce que va faire Twitter là-dessus. Dans sa stratégie, va falloir un moment qu'il digère le fait qu'il a raté une partie du train et qu'on ait un truc pragmatique comme Apple juste avant, où Apple dit bon, je disais, on ne sait pas faire, on prend une brique et puis voilà. Manifestement, ils ne sont pas prêts à ça, mais sa vie va devenir compliquée si ça devient un combat permanent dès que ChatGPT est quelque part.
Fred ?
Non, mais là où c'est remarquable, c'est que vous voyez, il tweet. Il répond en fait à un tweet d'un fan. Hein, mm-hmm. On peut dire que c'est un fan, hein, où il montre une coque de l'X-Phone. Et on est là déjà à en parler tous les quatre. Comme si c'était quelque chose de possible et tout. C'est vrai que moi je croyais que c'était une blague. Au début, je croyais que c'était une blague. Et je pense que ça reste une blague. C'est juste, voilà, il réagit positivement. Et ce qui est formidable, c'est que du coup, alors qu'il est en pleine bisbille avec certains actionnaires de Tesla pour justement sa paye de 56 milliards quand même, faut pas oublier. Et ben, il est sur le devant de la scène et il démontre. Que c'est lui qui est le maître du jeu quelque part. Et ça, c'est encore une fois, c'est moi aussi je trouve ça assez
le maître
assez
du remarquable. Jeu ou le fou du roi, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Ouais, mais
il est là.
Les fans sont là, quoi.
À part exister. Ouais. Ce qui est un peu triste, c'est qu'en fait, ça fait un certain temps que tu vois, même Twitter, c'était bouillonnant au début. Tu te disais, ok, qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, il faisait des trucs qui étaient étranges, mais en même temps, il a viré plein de gens. Les serveurs sont jamais tombés, on nous l'a dit. Ils vont jamais absorber les pics de trafic. L'application, il n'y a pas eu de défaut de qualité majeur. Donc, tu vois, il s'est passé des trucs positifs. Il y a des trucs un peu plus étranges sur la stratégie pour monétiser l'appli, etc. Mais
il y a eu pas mal de ratés sur la modération, etc.
Il y a eu des trucs. Bon, mais tu vois, tu sentais que ça bouillonnait de qu'est-ce qu'on fait avec cette app. Là, ça fait quand même au moins 6 bons mois. On ne s'est pas dit, ok, finalement, quelle est la stratégie de Twitter. Donc, c'est un peu dommage au moment où il y a une vague à prendre sur l'IA, où Twitter, on se demande toujours un petit peu où ça va, que le moment où on en parle sur le plateau, ce soit parce qu'il lance des perches pour exister.
Mmh. Mais juste prenons un peu de recul, si on veut rester sérieux 2 secondes, lancer un smartphone, c'est quelque chose de gigantesque. C'est un travail titanesque.
Il y a des dizaines de marques chinoises qui le font chaque année, et certaines avec beaucoup de succès. Hein. Quand on voit le classement le top 5 mondial des fabricants de smartphones, chaque fois on voit des nouveaux noms qu'on ne connaissait pas 6 mois plus tôt.
Mais quand tu connais un Elon Musk qui aime bien, on sent qu'il aime bien le hardware, hein. C'est Tesla, c'est lui, ses fusées, c'est lui. Je le vois mal confier à un industriel chinois son prochain smartphone. Ça coûterait des milliards, en fait, de créer un smartphone. Et puis surtout dans un environnement, dans un contexte concurrentiel qui est terrible. Qu'est-ce que tu mets comme système d'exploitation? C'est quoi le modèle économique? Qu'est-ce qui va différencier ton smartphone par rapport aux milliers d'autres qui existent? C'est pas parce que tu vas avoir Twitter en page d'accueil que tu vas acheter un smartphone signé Elon Musk, tu vois.
En fait, la vraie partie compliquée, parce que comme tu
dis, intéressant, c'est que ça serait Tesla Phone. C'est même pas un X Phone. Je pense qu'il voudrait associer ça à Tesla parce que c'est la marque la plus hype en quelque sorte. Mais bon, alors peut-être qu'il y aurait quelques fans de Tesla qui achèteraient le téléphone Tesla, mais bon.
Et c'est la question que tu poses, c'est pourquoi faire? Parce qu'en effet, lancer un smartphone, c'est peut-être pas des milliards, c'est beaucoup d'argent, ça prend 2-3 ans, etc. Mais tu vois, quand on parlait d'entreprise chinoise Nothing, dont on avait déjà parlé, je t'avais raconté que mon frère avait participé au lancement de cette entreprise-là qui est anglo-chinoise.
Qui était l'ancien de OnePlus, qui a monté cette
Carl Pei. Et en fait, le truc, c'est que tu vois qu'en fait, ça se fait, ça devient ton projet, tu lances ça, même si tu le fais toi-même, en 2-3 ans, ça demande plusieurs dizaines, voire centaines de millions, mais tu le fais. La question, ce serait pourquoi faire? C'est la question que tu poses. Dire, même si tu parles de Tesla Phone, parce qu'en fait, il y aurait une intégration à Tesla. Ok, laquelle? Et d'ailleurs, Tesla, on en parlait aussi sur le plateau. C'est quoi la stratégie de Tesla? C'est-à-dire que l'avance qu'ils ont perdue par rapport aux marques chinoises, par rapport aux marques classiques européennes et américaines sur le marché de l'électrique, tu vois, ce petit effet bonus que tu avais de coup d'avance, maintenant, t'en fais quoi? À ce moment-là, la discussion, elle est plutôt là. Je vais lancer un smartphone.
Et puis surtout, aujourd'hui, alors c'est vrai, on voit énormément de nouvelles marques qui arrivent, mais elles jouent toutes le price point. Vraiment, c'est l'entrée de gamme, le prix, et c'est comme ça qu'on fait du volume. Ouais. On est quand même sur un marché qui est sursaturé, où il n'y a plus de croissance voire de la décroissance. Elon Musk, s'il veut jouer avec la marque Tesla, il va fatalement arriver dans le haut de gamme, sans OS. Donc, j'imagine qu'il ne va pas prendre iOS. Android, peut-être pas non plus. Donc oui, c'est inimaginable aujourd'hui.
Il allait prendre nouveau l'OS.
Phone,
ouais, non, mais au pire,
dans
à la limite.
Gamme, un marché sursaturé où il n'y a plus de croissance et où Apple déjà est super implanté. Voilà, donc non.
Au pire, tu vois, t'achètes une Tesla et on te file un Tesla Phone éventuellement. Tu vois, ça pourrait être un cadeau bonus tu vois, le truc, voilà. Mais je vois pas.
Je suis assez d'accord, si tu t'associes à Tesla, c'est du haut de gamme. Qu'est-ce que tu sors comme téléphone haut de gamme qui vaut le coup de pas acheter un Apple?
Bien sûr.
Ouais, compliqué.
Et puis surtout, à quoi il sert ce téléphone par rapport aujourd'hui à un iPhone ou un téléphone Android? Tu as des applis Tesla qui font plein de choses, en fait, qui font la blague.
Non, mais est-ce qu'on en parle?
Bon, enfin bref.
Et je pense qu'il a d'autres sujets encore, parce qu'il y a Tesla, SpaceX, X. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a lancé XAI. Donc il est aussi dans l'intelligence artificielle, donc il faut qu'il. On ne peut pas faire trop de choses non plus, à un moment donné.
Retour en France ?
Allez.
Et ça fait un mois que le bruit courait, les amis. Mistral cherchait donc à lever plusieurs centaines de millions d'euros. C'est vrai que c'était un secret polichinel. Et c'est confirmé. La pépite française de l'IA lève 600 millions d'euros. Un cap est franchi, donc. Et Mistral est bien dans la course. Maintenant, face aux géants américains, on écoute les explications de Frédéric Simotel.
Avec une valorisation de 6 milliards d'euros, Mistral se fait en effet une place au milieu des OpenAI, Anthropic, Gemini de Google ou encore Llama de Meta. Même si ces modèles d'IA générative ne sont pas destinés au grand public, eh bien la start-up française engrange chaque semaine de nouveaux contrats auprès des équipes de développeurs des grandes entreprises. Le succès d'une stratégie multiplateforme, les modèles d'OpenAI sont disponibles sur tous les clouds, ceux de Google, ceux de Microsoft, ceux de Databricks, ceux de Snowflake. Des modèles pour partie open source qui permettent de s'adresser à un marché assez large sur des secteurs très divers. Les développeurs s'en servent notamment pour générer du code et programmer leurs projets beaucoup plus rapidement. Les 600 millions d'euros levés devraient d'ailleurs servir à trois usages. Le premier, c'est le développement commercial aux États-Unis notamment. Le développement à l'international. Le deuxième, ce sera le recrutement de développeurs, de nouveaux talents avec des salaires assez mirobolants. Et puis le troisième usage, ce sera l'entraînement des modèles d'IA de Mistral sur des supercalculateurs qui sont aujourd'hui très chers.
Voilà, 600 millions d'euros avec donc une valo maintenant qui dépasserait les 6 milliards. Frédéric, sur ce sujet.
Ah oui, en préparant l'émission, là, du coup, j'ai fait un comparatif en fait de toutes les grosses valorisations et surtout les grosses levées dans cet univers. Donc on parle d'OpenAI, xAI, Anthropic. Donc aujourd'hui, si je parle un peu de chiffres, donc Mistral, donc au total aura levé plus d'un milliard d'euros en fait, de dollars pardon, donc au cours des 12 derniers mois. Donc c'est quand même une sacrée performance. Mais est-ce que ça pèse face à des Anthropic ou des xAI, par exemple, qui ont levé respectivement 7 milliards et 6 milliards là récemment? Et est-ce que ça pèse face à OpenAI, qui ont levé 13 milliards de dollars au cours des deux dernières années? Donc, en fait, il y a toujours cet aspect, est-ce que Mistral ne serait pas un peu le petit poussé?
Oui, c'est ça, on ne peut pas s'empêcher de comparer les investissements, en fait.
Exactement. Ouais, alors, on se rassure un peu, parce que quand on regarde Aleph Alpha, qui est le concurrent allemand de Mistral, donc eux n'ont levé que 642 millions d'euros.
Oh, les nuls.
Donc, effectivement, ils sont encore 12. Plus petits. Mais est-ce que ce n'est pas justement le match Europe versus USA versus Chine qu'on est en train de perdre, mais après il y a aussi des bonnes explications que je vous donnerai peut-être juste après.
D'accord, Clément.
Ouais, il y a la proposition de valeur par rapport à Anthropic, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont positionnés quand même sur la partie on fait de l'IA un peu plus frugal, ça va coûter moins cher aux clients. C'est-à-dire qu'ils sont pas frontalement face à Anthropic. Donc je pense que, et c'est un peu pour ça que ça marche aussi, c'est parce qu'en fait ils se sont dit ok, on va essayer de trouver un créneau qui va peut-être être moins coûteux pour les clients.
Un créneau différenciant par rapport aux autres.
Trouver autre chose. Après, il y a un truc qui est, c'est marrant, on dit pépite française. Tu vois, tu l'as dit, licorne française, machin. Ouais.
Elle est de moins en moins française.
Bah, en fait, c'est un peu la question qui va se poser, et encore, peut-être.
Après, les dirigeants sont français.
Félicitations à eux, tu vois, c'est très bien. Ouais. En fait, c'est un peu la question qui va se poser. Est-ce que c'est encore une licorne française? Est-ce que c'est une question qui a de l'intérêt? On verra. Mais tu vois, moi, du point de vue cloud, la question que je me pose et ce que je regarde, c'est est-ce que ce qui pourrait nous apporter, par exemple, c'est sur le marché français et européen, c'est est-ce qu'ils filent un coup de main? Est-ce qu'il y a des partenariats spécifiques avec un Scaleway, avec un OVH, avec du Hotscale, j'en sais rien, pour travailler ensemble, pour essayer justement de nous aider à développer un peu de souveraineté chez nous? Ce genre de choses qui est, après tout, ce que pourrait apporter une pépite qui a pris comme ça, qui est une boîte extraordinaire, dans le marché le plus trendy de la planète et qui est dragué par Google,
j'ai Azure, pas l'impression que ce soit leur principale préoccupation.
Ah ben, je vais te dire même, ils s'en fichent complètement. Des échos qu'on a sur leur marché, c'est pas du tout leur enjeu.
La souveraineté, c'est pas leur truc.
Je comprends, parce qu'ils ont une fusée à prendre, les mecs. Ouais, donc de toute façon, je veux dire, c'est normal que ce soit pas leur enjeu. En revanche, le côté on a une pépite française, c'est trop cool, etc., etc. À un moment, si on s'assoit et qu'on se dit, bon, déjà, les fonds qui sont dedans, est-ce que c'est encore français? Mais surtout, à quoi ça sert d'avoir le tampon parce que les fondateurs sont français? À date, j'ai pas la réponse.
Fred. Oui, la souveraineté, ils s'en foutent un peu, mais si l'Europe prend fait et cause pour Mistral AI en sais pas, en faisant passer des directives où il va falloir s'équiper en IA européenne. Bon, je pense qu'ils s'en foutront peut-être moins là déjà, parce que ce sera une manière pour eux aussi de se développer face à ces géants qui ont beaucoup plus de
fonds. Tu évoques quoi, par exemple, des marchés publics ?
Des marchés publics, des choses comme ça, où on dira, ben voilà, il va falloir utiliser des technologies européennes, et donc à ce moment-là, ils seront a priori les mieux positionnés. Après, effectivement, ça reste petit par rapport à Anthropique ou à des OpenAI. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a besoin, on l'avait vu avec la première génération d'Internet, on a vu des entreprises françaises comme Dailymotion par exemple, ils n'ont pas su atteindre la taille critique, or on s'est aperçu que Dailymotion, il n'y en aurait qu'un dans le monde, et ça a été YouTube. Et il n'y a pas la place pour un deuxième.
Alors que Dailymotion a été lancé avant YouTube.
Alors que Dailymotion a été lancé 6 mois ou un an avant,
ce que tu veux, tu vois.
Avant YouTube. La question c'est, est-ce que ce sera la même chose dans l'IA ? Est-ce qu'il y aura effectivement des IA spécialisées, ou est-ce qu'il va falloir atteindre une taille critique parce qu'il y aura une seule IA qui dominera tout le monde, comme on l'a dans le moteur de recherche, comme on l'a dans les réseaux sociaux, ou comme on l'a sur d'autres marchés du numérique. Donc là, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Est-ce que, donc, si c'est le cas, Mistral est voué à n'être qu'un acteur de seconde zone. Voilà. Le petit français qui a vaguement réussi un temps, mais finalement qui a été dévoré par les Américains. Ou est-ce qu'il va arriver à faire son trou sur des marchés de niche et à devenir et à continuer à croître grâce à ces marchés-là ?
Frédéric.
Il y a une vraie question à se poser, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'équipe de Mistral est extrêmement respectée dans la vallée, donc dans la Silicon Valley.
D'ailleurs, ce sont des anciens de Google, enfin ils ont...
Exactement, Google Meta. Et ils sont respectés pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à faire en très peu de temps des modèles de langage qui sont extrêmement performants. Là où, si on devait comparer avec OpenAI, OpenAI, grosso modo, il branche du GPU et puis ça tourne, alors qu'avec très très peu...
Oui, tu veux dire, on pourrait comparer OpenAI, c'est du diesel, alors que eux, c'est de l'hybride, c'est ça ?
Quelque part, même de l'électrique, quasiment, parce qu'ils sont extrêmement...
Ils travaillent avec seulement 1000 puces Nvidia, hein, je crois, pour
exactement,
développer
un
modèle de langage. Hein. C'est très peu. Hein.
C'est rigolo, parce que finalement, on a toujours dit que, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées, c'était le slogan des années 70.
On n'a pas de GPU.
Et là, finalement, on a moins d'argent, mais on est peut-être plus malin pour justement faire tourner des modèles en étant plus frugal.
À la fin, c'est l'argent qui gagne quand même souvent. Hein,
donc exactement.
Il faudra de l'argent au bout d'un moment.
Il faut faire attention aussi à une chose, c'est qu'il y a... je constate en tout cas, malheureusement, une certaine malédiction française, celle d'avoir des pépites, celle d'avoir des gens très intelligents, très smart, très brillants, qui accouchent de superbes sociétés et qui, à un moment donné, ne font pas complètement le virage des États-Unis, parce que c'est en étant en fait performant sur le marché américain que du coup il y a une boucle vertueuse en fait qui se met en route. Rappelez-vous, hein, on l'a dit, hein, Dailymotion, on est les premiers et finalement on se fait doubler par YouTube. Deezer, on est les premiers, on se fait doubler par Spotify, et ainsi de suite. On n'arrive pas à avoir une véritable vision internationale.
On va parler encore d'argent. C'est 500
l'argent.
Millions d'euros.
L'argent.
C'est pas le salaire de Clément, c'est le montant de l'acquisition.
Ah, c'était pas vu venir celle-là.
Tu l'as pas vu venir, hein, celle-là. C'est le montant de l'acquisition de Biril par la licorne française spécialiste du jeu mobile qui s'appelle Voodoo. Objectif de l'opération, en fait, accélérer la croissance du réseau social Made in France et sa rentabilité. On écoute les explications d'Étienne Henry et on revient juste après pour commenter tout ça.
Avec BeReal, Voodoo réalise la plus grosse opération de son histoire et met la main sur 40 millions d'utilisateurs actifs sur 3 continents, en France, aux États-Unis et au Japon. Le réseau social français plébiscité par les moins de 25 ans, qui propose chaque jour à ses abonnés de partager des photos instantanées, ne dégage toujours pas de revenus, car il avance pour l'heure sans modèle économique et Voodoo compte bien y remédier. Le spécialiste des mini-jeux mobiles créé il y a 10 ans, aujourd'hui valorisé plus d'un milliard d'euros, veut permettre à BeReal de profiter de tous ses services habituellement réservés aux créateurs de jeux mobiles pour l'aider à atteindre la rentabilité. Analyse des données, acquisition d'utilisateurs, développement produit et intégrer à BeReal la publicité pour porter le réseau social vers les 100 millions d'utilisateurs.
Voilà un réseau social français qui cartonne aux États-Unis, au Japon et en France, notamment, et qui se fait racheter par une boîte française. Donc c'est bien, là on reste à la maison, c'est plus cool. Clément, Ouais, BeReal.
Vodou, en plus, c'est marrant, c'est une de ces licornes que personne ne connaît.
Mais
quand tu parles des licornes, les gens te parlent de Lydia, de Payfit, de je sais pas quoi. Il y a quand même
ou de Sorare.
Exactement.
Tiens, qu'est-ce qui devient de Sorare? Il faudrait un jour se poser la question.
Il a parlé à Big, le truc de BPI là, oui, à l'Arena, à l'Adidas Arena. Je sais pas ce qu'il a dit, Nicolas Julia. J'ai vu un post LinkedIn. Non, c'est, tu vois, c'est un peu comme Believe. Par exemple, les gens connaissent pas trop Believe, le truc de label de musique. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est au-delà du réseau social, c'est la boîte qui rachète. Vodou, c'est une licorne française qui a pour politique d'inonder les stores de jeux vidéo pour téléphone, d'un niveau qu'on peut appeler très bas de gamme, et de monétiser ça à mort.
Ouais, c'est du casual gaming, quoi.
Exactement. Mais, mais ils ont une industrialisation derrière de comment est-ce qu'ils montent dans les classements, comment est-ce que ça crée des mécanismes un peu addictifs, comment ils les lancent très
vite. Du SEO, finalement, sur
exactement
mobile.
Et puis, ils ont un côté marketplace où, en fait, les gens les développent et les mettent sur leur. Donc, il y a un côté. Quand on dit, et moi c'est la partie qui m'intéresse, quand on dit c'est pour apprendre à BeReal à monétiser, s'il y a une boîte en France
qui sait le faire,
qui peut réussir à monétiser BeReal, en fait c'est Vodou.
Ouais. Rappelons BeReal, le concept, Fred.
Alors BeReal,
parce que je crois que t'es le seul de nous tous à l'avoir.
Pas encore, mais en tout cas j'ai mon fils qui l'utilise beaucoup. et c'est vrai que c'est amusant BeReal. Alors après voilà, est-ce que c'est pas un peu éphémère? L'idée donc c'est que tous les jours on reçoit une notification, c'est très ludique. Hein. On reçoit une notification et immédiatement on doit lancer l'application qui va nous prendre en photo par devant, donc nous, avec le décor derrière, ainsi qu'une double photo, puisqu'il y aura
donc
aussi
on te
photo,
voit toi et on voit ce
moi,
que tu fais.
Et ce que je suis en train de faire.
Où tu es.
Et l'idée, donc, BeReal, soyez vous-même, soyez réel, c'est de. Bah, c'est pas des photos travaillées, c'est pas des photos apprêtées, c'est des photos prises sur le vif qui permet de partager, d'accord, auprès de sa communauté, petite communauté, l'instant présent, voilà. Donc c'est l'anti-Instagram, c'est comme ça qu'ils se présentaient. Ils ont été lancés durant le Covid, ils ont connu une croissance très très forte, hein, jusqu'à atteindre plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. Ils sembleraient plafonner depuis quelques temps, hein, passer l'effet de découverte, l'effet de mode, il semblerait que ça plafonne un peu. Maintenant, ils ont lancé de nouvelles fonctionnalités, Vodou va vouloir en lancer aussi, et c'est à ma connaissance la plus grosse réussite du web français dans les réseaux sociaux. Alors c'est pas la France, c'est un petit peu le deuxième pays des réseaux sociaux, hein, comme on le dit. Il y a eu Zenly qui avait été racheté par Snapchat. On a eu Waller, hein, qui protégeait un petit peu les données. Là, on a donc BeReal, bah, qui est une pépite française, valorisée 500 millions. C'est quand même beaucoup. C'est quand même un peu cher, non?
Moi, Fred, le mot de la fin sur BeReal.
Alors, ce qui est intéressant là ici, c'est que ça y est, c'est la saison des fusions acquisitions qui se relance. Hein. On a connu un véritable bas en 2023. Ouais. Là, ça se relance. On peut se dire que voilà, il se passe quelque chose. On peut juste dire peut-être que c'est un deal un peu défensif, parce que je crois que la valorisation à laquelle ils ont été rachetés est inférieure à la valorisation du tour précédent. Donc, je pense qu'il y a des actionnaires qui ont été un petit peu lésés dans l'affaire. Mais à un moment donné, il faut rendre l'argent aux actionnaires et aux LP, aux souscripteurs. Donc, c'est bien que ça se fasse. C'est bien que ça se fasse.
Et c'est bien que ça se fasse en France. C'est vrai, Frédéric le disait en introduction. Mais ce genre de boîte, elle part toujours aux États-Unis ou ailleurs. Là, ça
Frédéric,
reste en France. C'est quand même une bonne nouvelle.
Il m'a appelé Frédéric.
Il n'y a plus de respect,
je crois.
Pardon.
Fait.
Je suis d'accord.
On le met dehors.
Ah bah... C'était ta dernière. Mais merci à toi, Frédéric.
Merci à tous les Fred.
Ça tombe bien qu'on le mette dehors puisqu'on a fini. Donc, j'ai même pas à forcer.
Allez.
Désolé, François.
Mais on plaisante, Fred. C'est pour te taquiner, bien sûr. Frédéric Bianchi pour donc la rédaction de BFM Business. Merci à Frédéric Krebs aussi. À très bientôt, Frédéric. Tu reviens quand tu veux. CMO de Serena, entre autres. Et merci à Clément David.
Bonne soirée.
Le président de Paddock.